le texte que je voudrais qu'on partage ce matin ensemble, et je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez avec vous, est un texte qui est dans la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, au chapitre 1. J'ai toujours beaucoup de mal à donner des titres aux prédications, c'est le truc qui... Voilà, j'ai du mal. Et donc, j'ai décidé d'appeler cette prédication « La grâce à l'œuvre ». Si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être né entre deux pages de Bible. Moi, je suis issu d'une famille chrétienne qui m'a éduqué, CAEF en plus. Bon. Et qui m'a éduqué conformément à la parole de Dieu. Et le mot « grâce », au final, pendant tout un temps de ma vie, il me passait au-dessus, parce qu'on a tellement, en plus quand on est protestant, on a fêté la réforme il y a 2 ans de ça, le mot « grâce », le salut par la foi, la grâce de Dieu, etc., c'est un mot, on l'entend perpétuellement, on se le répète encore et encore, et au final, intellectuellement on le comprend, mais dans notre cœur, ça s'étiole un petit peu, cette question de la grâce, Et je me suis posé la question à moi-même de me dire, mais est-ce que tu la vis encore profondément? Est-ce que ça t'impacte encore profondément? Est-ce que c'est quelque chose qui touche la grâce? Ou alors est-ce que c'est un mot labellisé ISO 9002 évangélique de dire, quand on dit grâce, on est bien là. On est évangélique, on est bien. Mais justement, cette question de la grâce, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un impact encore sur nous? En particulier quand on connaît le Seigneur depuis peut-être plusieurs années. Est-ce qu'on est encore sensible à cette question-là? Et le texte là que je vous propose de partager ce matin, c'est un texte dans 1 Timothée, chapitre 1, les versets 12 à 17, qu'on va partager ensemble. Mais avant de lire ce texte, et je vous invite, je vais l'afficher, mais je vous invite à le garder ouvert devant vous dans vos Bibles, si vous n'êtes pas coutumier de la lecture de la parole de Dieu et que vous avez cette version de Bible, c'est pas une version que je recommande particulièrement, mais c'est juste si on a la même, c'est page 780. Je voudrais juste planter un peu le décor. On est après la mort de Jésus-Christ, juste après ces épisodes qui ont été difficiles, et il y a un homme qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul, qui a commencé à implanter des églises. Et au moment où on est en train de lire cette lettre, il a implanté une église il y a 10 ans de ça, en 2009 donc en quelque sorte. D'accord? C'est comme si on était en 2019 et il a implanté cette église en 2009, voilà, il y a 10 ans. Il a créé cette église et pendant 3 années, Paul, qui est quand même un personnage, Paul a passé du temps avec les responsables de cette église de manière à les former. Et on a des indices, on ne va pas prendre le temps de les regarder, mais dans le livre des Actes, on a des indices particuliers qui nous disent qu'il les a formés d'une manière particulière. Il est allé dans les maisons, il les a enseignés un par un, du cours particulier par l'apôtre Paul. 3 ans. 3 ans de cours particulier par l'apôtre Paul. Je pense qu'il y en a plus d'un qui serait demandeur. Et en particulier, il a attaché son attention aux personnes qui étaient en responsabilité dans l'Église, parce qu'il savait qu'il fallait que ces personnes tiennent l'enseignement de la parole de Dieu, tiennent la pureté de l'Évangile, de manière à ce qu'il ne soit pas altéré, cet Évangile. Et il y a 10 ans de ça, Paul crée cette Église, pendant 3 ans il les forme, il part sur place de manière à essayer de garantir la pureté de l'enseignement. Il leur laisse une personne qui s'appelle Timothée, qu'on voit souvent comme un jeune. Alors, c'est chouette, parce qu'il a 35 ans, probablement, dans cette période-là. Donc, moi, je suis heureux de voir qu'on reste jeune longtemps. Mais on a une vision peut-être un peu altérée du jeune Timothée. Peut-être pas si jeune que ça non plus. Et il laisse Timothée sur place, dans cette église qu'il a implantée dans une ville qui s'appelle Éphèse. Voilà un peu pour le décor. Et donc, 7 ans après le départ de l'apôtre Paul, il envoie une lettre à son jeune Timothée. Et le contenu de cette lettre est vraiment touchant. Vraiment touchant parce qu'on se rend compte que, manifestement, dans ce que dit l'apôtre Paul, malgré ses 3 années de formation, Malgré le fait qu'il a pris le temps, malgré le fait qu'il envoie aussi une lettre de 6 chapitres à l'église d'Éphèse, on se rend compte que cette église, son enseignement est devenu non conforme à la parole de Dieu, qui à l'époque n'était pas couchée telle qu'elle est aujourd'hui. Mais Paul avait transmis un enseignement pur, non altéré, un évangile qui était un évangile conforme, avec une doctrine particulière. Et les choses ont dérivé. Il avait pourtant tout mis en œuvre. 3 ans de formation, laissé Timothée sur place pour veiller à ça. Et pourtant, ça s'est délété. Et Paul écrit dans cette lettre, non pas à l'église d'Éphèse, même si bien sûr ils ont été bénéficiaires de cette lettre, mais il écrit à Timothée. Ça, parfois, on a tendance à l'oublier. Mais il écrit à son disciple Timothée, celui qu'il a eu en formation pendant tellement longtemps, celui qui a voyagé avec lui, celui qui a vu tellement de choses, et celui qui se retrouve dans une situation qui pourrait être presque une situation de dépression. Une situation où il est au fond du trou, Timothée, quand il regarde le carnage à Éphèse, et il se dit « Waouh !» Un chantier, mais monumental dans l'église d'Éphèse. Et quand vous lisez la première lettre de Paul à Timothée, et qu'on regarde les différentes problématiques qui sont abordées, on se dit, quel chantier ? Alors là, il y a tout à refaire. La doctrine, l'éthique, il n'y a plus rien qui tient la route à Éphèse. Et les anciens de cette église, et Paul va redonner des enseignements sur les anciens dans cette première lettre à Timothée, les anciens ont complètement dérivé. Et c'est un leadership qui est complètement à la dérive. Et on a un Timothée qui est là, qui se retrouve sonné au milieu du ring à Éphèse. Et il regarde la situation d'une manière désespérée. Comment on va s'en sortir? Et on a les mots ici, dans cette première lettre à Timothée. Les mots d'un père spirituel. D'un Paul qui lui-même vit ses difficultés au moment où il écrit cette lettre. Et qui va adresser ces mots tellement pleins d'amour à son fils spirituel qui est dans le dur, comme on dit. Son fils spirituel, Timothée, qui est là et qui est désœuvré, il ne sait plus comment faire, comment on va s'en sortir face à telle ou telle situation. Et Paul va prononcer ce mot, Timothée, la grâce. La grâce. On lit le texte ? Voilà ce que dit Paul. On est au début du chapitre, hein, verset 12. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce, parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Quand on voit l'état de l'église d'Éphèse, on se dit, mais pourquoi est-ce que Paul perd son temps avant de donner plein de conseils qu'il va donner par la suite en disant, dans telle situation, voilà ce que je te recommande de faire. Dans telle situation, voilà ce que je te recommande de faire. Pourquoi est-ce qu'il perd son encre et pourquoi est-ce qu'il perd son temps à donner à Timothée ces quelques versets, du verset 12 au verset 17? Pourquoi est-ce qu'il n'entre pas quelque part tout de suite dans le vif du sujet? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas tout de suite avec les conseils pastoraux en disant « dans telle situation, tu dois agir comme ça » Est-ce que ce texte est une anomalie dans l'épître de Paul à Timothée? Est-ce que quelque part, il est mal placé? Et regardez bien. La première chose que l'apôtre Paul va faire, c'est qu'il va rappeler que la grâce est nécessaire à tout moment. Parce que la grâce de Dieu est puissante. Parce que la grâce de Dieu est au centre de toute chose. Et Paul va faire quelque chose qu'il va refaire, qu'il a fait déjà à énormément de reprises. Il donne à Timothée son témoignage de conversion. C'est quelque chose qui est fort, ça. C'est quelque chose qui est très puissant. Il donne à Timothée, il rappelle à Timothée son témoignage de conversion. J'étais un blasphémateur. J'étais un hors-la-loi. J'étais quelqu'un qui voulait tuer encore et encore, un assoiffé de vengeance perpétuelle. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Mais la grâce de Dieu est venue. Et regardez le début. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié. Le mot qui est utilisé ici pour fortifier, c'est celui qui a donné en français le mot dynamite. Vous savez quoi? Jésus-Christ est venu, il m'a dynamité. Pas dynamisé, dynamité. Il a mis un bâton de dynamite dans mon cœur, il a allumé la mèche, il est parti, il a fait ça, et bam! C'est ça qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul. Il s'est pris un bâton de dynamite sur le chemin de Damas. Jésus-Christ est venu et il a dynamité l'apôtre Paul. Je trouve ça génial. C'est magnifique. Et Paul reconnaît ça. Je suis tellement reconnaissant dans mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a explosé. Il m'a dynamité. Parce que j'étais tellement sur une voie qui était une voie sombre, une voie dans laquelle je ne pouvais pas m'en sortir par moi-même. Et l'apôtre Paul montre ici qu'il est passé de blasphémateur à adorateur. Vous avez vu la fin de ce texte? Cette prière, quelque part, de l'apôtre Paul, au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible, seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. C'est la conscience, la prise de conscience de l'apôtre Paul, qu'il avait déjà bien avant d'écrire ce texte, bien sûr, mais qu'il couche ici sur papier de dire, mais je suis tellement conscient de ça que j'étais un blasphémateur, que je rends gloire et honneur à mon Dieu qui m'a dynamité et qui a fait de moi une nouvelle créature. La grâce à l'œuvre dans la vie de l'apôtre Paul. Et vous savez quoi? L'apôtre Paul dit la chose suivante, c'est quelque chose de surnaturel qui s'est produit en moi. Il n'y avait rien qui prédisposait l'apôtre Paul à donner sa vie au Seigneur. Il était le pire. Imaginez, faites une projection mentale, imaginez le pire. Vous avez peut-être, je ne sais pas quel personnage historique ou un ami peut-être, un proche ou quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui fait le pire du pire. L'apôtre Paul, il dit, mais tu peux chercher longtemps, tu ne trouveras pas pire que moi. Et Jésus-Christ est venu par un acte surnaturel qui s'appelle la foi. Et il a implanté la foi dans le cœur de l'apôtre Paul. Un acte surnaturel. La conversion de l'apôtre Paul, elle n'est pas venue d'une recherche spirituelle. Vous savez, moi je suis souvent découragé par mes collègues de travail. Ils me minent, ils me plombent le moral. Parce que quand j'essaye d'observer une occasion favorable pour pouvoir leur présenter l'évangile, pour pouvoir essayer d'aborder la question, de dire, parce que je suis tellement convaincu que c'est leur solution dans leur vie. Mais ils vont bien. Ils vont bien. Ils sont heureux. Ils partent en week-end. Ils sont contents. Leur famille, elle tourne bien. Ils ont même des valeurs éthiques. Ils vont bien. J'aimerais qu'il leur tombe une tuile dessus pour que je puisse leur témoigner quelque chose. Enfin, j'aimerais pas. Mais des fois, franchement, je me dis, mais quelque part, il faut guetter l'épreuve dans la vie des gens, malheureusement, tristement. Mais je n'ai pas envie de ça pour eux. Et je prie le Seigneur qu'il fasse quelque chose de surnaturel dans leur cœur, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut les amener à lui. Il faut quelque chose de surnaturel dans le cœur. Et Paul se présente. Les versets 15 et 16, et c'est sur ceci que j'aimerais vraiment particulièrement qu'on focalise notre attention, et si on doit retenir quelque chose, retenons la parole de Dieu, et retenons en particulier ces deux versets, s'il vous plaît. Regardez les versets 15 et 16. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce. » Afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit que si Jésus-Christ a décidé de faire cette action surnaturelle dans la vie de l'apôtre Paul, c'est justement pour montrer la puissance de la grâce. Il n'a pas pris, dans sa bonté, le Seigneur Jésus-Christ a pris un fils de chrétien comme moi et il en a fait une nouvelle créature. Et mon témoignage est aussi puissant que celui de l'apôtre Paul parce que c'est un acte surnaturel de toute façon une conversion. C'est un acte surnaturel. Mais si Jésus-Christ a choisi de sauver l'apôtre Paul, lui précisément, c'est pas parce qu'il savait qu'il allait devenir l'apôtre Paul, c'est pas parce qu'il savait qu'il avait des capacités intellectuelles particulières, c'est pas parce qu'il savait que ça allait devenir probablement le plus grand missionnaire de tous les temps, mais c'est parce qu'il était le pire. Il était le pire. Regardez un petit peu plus haut dans le texte, si vous avez vos Bibles ouvertes, au verset 9 et 10. Paul dresse une liste qui était probablement la liste des péchés dans l'église d'Éphèse. Et voilà ce qu'il dit. Il y a des malfaiteurs, versets 9 et 10, malfaiteurs, des rebelles, des impies, des pécheurs, des sacrilèges, des profanateurs, des personnes qui tueraient père et mère, des meurtriers, des personnes qui vivent dans l'immoralité sexuelle, des homosexuels, des trafiquants d'esclaves, des menteurs, des parjures, et des personnes qui sont contraires à la saine doctrine. Et il dit un petit peu plus loin, bah, tu vois tout ça, ben moi je suis pire. J'étais pire. On se dit, waouh, la liste quand même. La liste, elle est costaud. L'apôtre Paul était pire. Et si Jésus-Christ a décidé de sauver l'apôtre Paul, c'est pour mettre le doigt sur le fait que sa grâce n'a aucune limite. Elle peut prendre le pire des pécheurs, le dynamiter, et en faire le plus grand missionnaire de tous les temps. Un cas d'école, voilà qui est l'apôtre Paul. Et voilà comment il se reconnaît lui-même. Christ a sauvé le pire des pécheurs pour montrer la puissance de sa grâce. Je suis surpris de voir Paul prendre du temps pour donner son témoignage. Je suis surpris. Il ne le donne pas à n'importe qui, il le donne à Timothée. Timothée, il l'a accompagné pendant ses voyages missionnaires. Timothée, il était avec lui. Et Paul était un évangéliste. Et un évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? La plupart du temps, il donne son témoignage. Et vous savez, Timothée, il a dû être dans l'ombre de l'apôtre Paul pendant des années, derrière lui, dans des maisons, dans des synagogues, dans différentes villes, etc. Son témoignage, il a dû l'entendre 800 fois. Il devait le connaître par cœur, le témoignage de l'apôtre Paul, par cœur. Il devait être capable de le réciter à la lettre près. Il devait savoir peut-être la petite blague qu'il allait faire à quel moment. Il savait tout du témoignage de l'apôtre Paul. Et Paul, alors que son enfant spirituel est dans la galère la plus complète dans l'église d'Éphèse, il arrive et il lui écrit son témoignage. Et je me dis, mais c'est incroyable qu'il prenne du temps. Non, fais de la doctrine. Fais de la doctrine. Envoie-lui quelque chose de costaud. Envoie-lui un encouragement quelque part. Non, tu sais, je vais te raconter mon témoignage. Oh! Ça fait des années que je l'entends, ton témoignage, que je le connais par cœur. Mais il a une raison pour ça, l'apôtre Paul. Il a une raison précise. C'est pas la forme du témoignage, c'est pas forcément non plus son contenu général de là où il était, etc., etc. L'apôtre Paul est tellement convaincu que c'est la grâce de Dieu qui est venue le chercher et que seule la grâce de Dieu peut venir au secours de Timothée. Je vous ai mis quelques références des endroits où on retrouve le témoignage de l'apôtre Paul, et Paul le donne, son témoignage, encore, et encore, et encore, et encore. Un peu comme s'il n'en revenait pas. J'en reviens pas de où tu m'as tiré, Seigneur. Et pendant des années, j'ai été frustré par mon témoignage. Je me suis dit, mais j'ai un petit témoignage, il n'est pas marquant. Parce qu'en tant qu'enfant de chrétien, on se dit... Je me suis jamais drogué. Quelque part, parfois, on se dit, on aurait aimé. Parce que, au moins, ça aurait impacté. Vous savez, vous êtes dans un camp, autour d'un feu de camp et tout, ambiance. Et puis, vous avez envie de donner votre témoignage. Et, ah ouais, avant, j'étais ci, j'étais ça. Et puis, en fait, non. Et t'es limite triste. Tu vois, il te manque quelque chose. Et quand t'as un frère qui arrive et qui était justement tout ça, et on se dit, c'est génial qu'il puisse donner son témoignage. Et c'est vrai, c'est génial qu'il puisse donner son témoignage. Mais il y a tellement de fils et de filles de chrétiens qui sont dans des incertitudes par rapport à leur salut, qui sont dans des incertitudes et qui vivent des questionnements mais tellement profonds en réalité, tellement profonds, et qui ne sont pas drogués, qui ne sont pas, etc., qui n'ont pas commis des choses qui nous paraissent énormes. On aimerait quelque part avoir le témoignage de l'apôtre Paul. Mais vous savez quoi? Toute conversion est surnaturelle. Toute conversion est un miracle. Et je suis plus frustré, rassurez-vous. Et je suis heureux de pouvoir donner mon témoignage quand on est à différentes occasions avec des jeunes, des moins jeunes, de pouvoir partager simplement le fait que même si j'ai eu une vie bien rangée, c'est un miracle ce qui s'est passé dans ma vie. Ce qui s'est passé dans notre vie, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mes frères et mes sœurs, mais c'est un miracle. Vous êtes des miracles. On est tous porteurs d'un miracle quand on a accepté la grâce de Dieu. J'aimerais nous donner deux questions. Est-ce que on partage nos témoignages? Est-ce qu'on se donne nos témoignages de conversion, hein, essentiellement, ou témoignages de vie, bien sûr, mais là, l'apôtre Paul nous amène sur son témoignage de conversion, donc je ne veux pas sortir du texte, mais est-ce qu'on se partage nos témoignages? Dans notre groupe de semaine, peut-être vous avez des groupes de quartier dans l'église, où, voilà, on appelle ça des groupes de semaine à Grenoble, et on a eu toute une période dans le groupe de semaine qui est sous ma responsabilité, où on... À chaque début de rencontre, il y avait un frère ou une sœur qui donnait son témoignage de conversion. Et vous savez ce qui se passait quand on donnait son témoignage de conversion? Et c'était très riche parce que c'était très différent. Très différent. Eh bien, ce qui se passait, c'était le verset 17, c'est-à-dire qu'à la fin, on se disait, non mais attendez, on ne peut pas attaquer l'étude tout de suite. On va prier ensemble et on va chanter ensemble, on va adorer notre Dieu parce que c'est un miracle qui s'est produit. Et ça fait du bien. Ça fait du bien quand on est dans le dur, quand on est dans le mal, quand les choses elles vont pas bien, de se rappeler, de dire « Je suis un gracié. Le Seigneur m'a gracié. » Mais d'une grâce qui est pas juste « Allez, vas-y, continue ton chemin. » Non, c'est un miracle. C'est un miracle surnaturel qui s'est passé dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on se donne nos témoignages de conversion? On est des graciés, on est des miraculés. Moi, je vous encourage. Partagez, même si vous pensez que vous avez un petit témoignage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes des graciés. J'ai une deuxième question. Et celle-ci, elle est dure. On a tous dans nos familles, je crois, un parent, un papa, une maman, un frère, une sœur, un fils, une fille, petit-fils, petite-fille, qui ne connaît pas le Seigneur. Et c'est plombant. Moi, je vis cette situation avec un très proche de ma famille. Je suis tellement triste de me dire que si le Seigneur le reprend maintenant ou la reprend maintenant, c'est l'enfer. La question que je veux nous poser, c'est est-ce que Parce que moi, par rapport à cette personne, je me dis, vous savez, c'est fichu, en fait. C'est ma sœur. Si le Seigneur revient aujourd'hui, elle est en enfer. Elle a eu la même éducation que moi. Le même écosystème. Elle a nagé dans le même aquarium. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait cette grâce. Mais, et souvent, je baisse les bras et je me dis, elle sait tout ce qu'il y a à savoir. Elle sait tout. Elle connaît les champs mieux que moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous assure, je l'ai découvert il y a 4 mois de ça. J'ai eu la tristesse de perdre mon papa il y a 4 mois de ça. On a préparé les obsèques. Et au moment des obsèques, on choisissait des chants. Et il y avait un chant où on ne se souvenait plus d'un couplet. C'est elle qui nous l'a donné. Ça me flingue. Ça me rend fou. Elle connaît tout. Et vous savez, dans ces situations-là, je me dis, je baisse les bras. Et je dis, c'est fichu. C'est fichu. Et ce texte qu'on a lu ce matin, il me fait du bien à moi en premier. Je suis désolé, j'ai été égoïste ce matin. Il me fait du bien. Il me fait du bien parce qu'il me rappelle, Jean-Marc, t'as tort. T'as tort. Parce que tu sous-estimes la puissance de la grâce. La grâce, elle dynamite. La grâce, elle brise les cœurs. Et elle fait que ma sœur, ton fils, ta fille, ton parent, quelconque, petit-fils, petite-fille, peut venir au Seigneur. Et ça nous pousse à nous mettre à genoux devant Dieu et à continuer à intercéder encore et encore. Seigneur, ta grâce, je t'en supplie, exerce ta grâce. Produis cet acte surnaturel dans le cœur de cette personne, comme tu l'as fait dans le cœur de l'apôtre Paul. Cette grâce, elle est toujours valide aujourd'hui. Et peut-être c'est vous qui avez besoin de cette grâce. Peut-être vous pensez être dans une situation impossible. Peut-être vous vous dites, non, pas moi en fait. Moi, si tu connaissais le fond de mon cœur, si on branchait avec une prise quelconque VGA ou autre mon cœur sur le vidéoprojecteur et qu'on le mettait ici, je ne saurais plus où me mettre. Je perdrais ma femme, mes enfants, je perdrais tout. Tout. Ne sous-estime pas la puissance de la grâce. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Il veut produire cet acte surnaturel en nous. Il y a une sœur dans l'église, un soir de rencontre, elle m'a touché. C'est une famille qui vient à l'église depuis, je ne sais pas, 40 ans peut-être. Elle a 4 enfants, il n'y en a pas un qui est au Seigneur. Et elle les a éduqués pourtant correctement. Et c'est d'une violence. Et un soir, lors d'une rencontre, elle a dit « Je ne veux plus qu'on prie pour mes enfants. J'en ai marre de revenir toujours avec le même sujet. Et il n'y a rien qui se passe. Je ne veux plus qu'on prie pour mes enfants. » Moi, je suis rentré chez moi, j'étais effondré. J'étais effondré parce que je ne savais pas quoi lui dire. Et sur le coup, heureusement, il y a des frères qui ont pris le relais parce que j'étais désarmé, quoi. On a prié pour ses enfants. Elle s'est rétablie moralement, cette sœur. Et on prie semaine après semaine dans nos groupes de semaine, en particulier l'équivalent de vos groupes de quartier. On prie pour les enfants des uns et des autres. Parce qu'il y en a tellement, et je ne sais pas pourquoi, dans mon groupe de semaine, il y en a particulièrement, qui ne croient pas au Seigneur, qui ne sont pas au Seigneur. Et ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et c'est un acte surnaturel qui peut les sauver. C'est pas... Voilà. Mais intercédons encore et encore pour nos enfants. Je vous laisse avec ça, ce texte avant tout, que ce soit la parole de Dieu qui reste dans nos cœurs. Mais c'est tellement touchant de voir que l'apôtre Paul donne à son fils spirituel Timothée, qui est affairé par plein de réflexions sur les responsables d'église, la structure, comment il fait mettre en place des anciens, etc., etc. L'apôtre Paul qui lui dit « Souviens-toi de la puissance de la grâce ». Et on est un peu anesthésié par ce mot parfois. Moi, je le suis, je vous le confesse. Anesthésié par le mot grâce, quand on est protestant, issu de la réforme, on l'a entendu, réentendu. J'espère juste que le Seigneur a permis à travers moi de vous redonner un peu de fraîcheur à travers ce mot-là. Et qu'on puisse se dire, mais il n'y a que la grâce de Dieu qui peut intervenir. Et j'y crois. Elle est active. N'oublions jamais la puissance de la grâce. Et peut-être, quand on a évoqué ces exemples, il y a une personne qui vous est venue à l'esprit. Je veux vous dire, il n'y a aucune situation désespérée. Intercédons encore et encore et encore pour ceux et celles qui se perdent. En particulier nos proches, bien sûr, mais pas que. J'aimerais terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te prier pour te remercier déjà pour ta parole qui est tellement riche. Je suis émerveillé devant ta parole. Et elle me fait du bien. Et j'en ai besoin. Seigneur, je veux te prier pour les personnes ici qui ne te connaîtraient pas. Attire-les à toi, s'il te plaît. Montre-leur la puissance de ta grâce. Je veux te prier pour les personnes auxquelles on a pensé, Seigneur. Ces proches qui ne te connaissent pas et qui se perdent. Je t'en supplie, fais un miracle dans leur vie. Glorifie-toi à travers ça, parce que c'est ta gloire qui est en jeu. Seigneur, on t'aime. On tient à toi. On veut être fidèle. Ne permets pas qu'on dérive. Ne permets pas qu'on te soit infidèle. Sers-toi de nous, s'il te plaît, Seigneur, et glorifie-toi dans nos vies. Merci pour la présence de cette église dans la ville de Lyon. Permets qu'elle soit un flambeau, un témoin actif d'une grâce vivante, d'une grâce qui régénère, d'une grâce qui dynamite les cœurs. Amen.